Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio aujourd'hui Joël Miachon. Bonjour.
Bonjour.
Et en compagnie de Wens Melson.
Bonjour.
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 Tous deux, vous êtes ici pour nous annoncer la nouvelle saison des Nouvelles du Comte de Bourdeaux. Ça aura lieu du 25 juillet au 4 août. Et donc, comme le dit le titre, ça sera à Bourdeaux. Il est prévu une représentation d'une combien d'artistes, en somme ?
Ça, j'ai une petite vingtaine d'artistes.
Avec,
entre l'ensemble des activités.
Oui, avec des représentations multiples pour que tout le monde puisse voir au moins le spectacle. Donc, des propositions qui seront répétées, c'est ça ?
Non.
Pas cette année ?
En fait, répéter, on a fait très peu parce qu'on est sur un lieu unique, c'est-à-dire Bourdeaux comme village, mais un intérieur et un extérieur. Donc, quand je dis unique, c'est relatif. Et puis après, dans les activités, ben, c'est sûr que entre les apéro-contes, entre les spectacles pour la famille, entre les spectacles pour les adultes, entre les spectacles offerts par les amateurs, entre les randonnées, ben, ça fait un ensemble d'activités qui nous permet sur 10 à 11 jours, entre le 25 et le 4, comme vous disiez, ben, ça nous permet d'être, disons, actifs entre 11 heures le matin ou 10 heures le matin et minuit. Ou 10 heures le matin et 11 heures et demie le soir. Ce qui fait que quelqu'un qui se déplace pour une journée, ben, tout en faisant abstraction de la beauté de ce petit village et de son patrimoine, ben, il va pas s'ennuyer. Les gens ne vont pas s'ennuyer parce qu'il y a de quoi.
Voilà. Au moins 2 spectacles par jour et d'autres activités autour de ces spectacles. Voilà.
Donc, les spectacles, ce sont principalement des contes, avec des conteurs et des conteuses, ou inversement, et qui proposent... un univers, est-ce qu'il est un thématique d'ailleurs cette année là, il est marqué fagot ou fumigène. C'est un peu la thématique de cette année pour ce spectacle.
C'est plus qu'un peu. C'est la thématique à fond. Fagot ou fumigène, où finalement, on aborde une édition qui est très féminine. Pas uniquement féminine, mais les propositions féminines sont très présentes.
Les conteuses, oui. Les conteuses sont très présentes et même quand ce ne sont pas des conteuses, c'est la préoccupation autour des femmes, de la vie des femmes qui est présente dans les récits.
On en présentera quelques-uns pendant cette émission. Il y a donc un aspect féministe. Est-ce que l'esprit des Nouvelles du Comte se calque aussi sur l'actualité, selon les thèmes que vous proposez ?
Oui, décidément. C'est vrai que si ce n'est pas de l'actualité immédiate, c'est l'actualité ou le sociétal avec un recul, mais le sociétal contemporain qui peut chercher à un moment donné des appuis dans l'histoire. Mais c'est si à un moment donné nous avons travaillé sur chuchotement derrière le mur de Schengen, c'est sociétal, c'est pas forcément politique, c'est engagé, c'est sociétal. À un moment donné, quand on aborde le plus beau village du monde, c'est le mien, ben, on peut le prendre à la première lecture, de dire forcément, le plus beau village du monde, c'est le mien, quand je n'ai jamais vu un autre. Mais ça devient tout relatif quand on se dit, ben, tous ceux qui ont vu 3 villages, ils sont plus sûrs que le vôtre, c'est le plus beau.
Oui.
Donc c'est toujours ça. C'est aussi, par exemple, dans cette thématique, on avait inclus qu'à un moment donné, qu'il y a l'affolement, que dès qu'il y a 3 vieux cailloux qui s'empilent, il faut les éclairer. Et on se retrouve avec des villages éclairés comme le Louvre à minuit. parce que cette thématique, c'était il y a 10 ans. Donc, à un moment donné, de se dire, est-ce que c'est besoin, est-ce que c'est nécessaire de systématiquement éclairer l'ombril, le nombril ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est nécessaire pour vivre mieux ensemble ? Donc, oui. Là, avec Fagot et Fumigène, on se dit, ben, finalement, si on veut s'attaquer à l'histoire des femmes dans le passé, comme aujourd'hui, parce que malheureusement, c'est un peu la même histoire, ben, on se retrouve confronté à... On règle le problème par le Fagot. C'est pas pour rien, ça sent le Fagot, c'était pas bon signe. Et à un moment donné, ben, les sorcières passaient au Fagot. Et puis on a ajouté à ça la notion de fumigène, qui est autant un signe de... Ouais, de bonheur collectif, de liesse, qu'un signal de détresse quand il s'agit de la violence faite aux femmes. Et du coup, Fagot et fumigène, ben, ça colle bien. Et du coup, on est aussi sur un festival du conte où le conte merveilleux a sa place. Ça interroge aussi ça. Le festival du conte n'échappe pas à l'idée que dans la dominance des festivals, les femmes sont les plus grandes productrices en nombre de spectacles et sont souvent moins rémunérées que les hommes. Aussi dans le conte, où on est dans le rêve quand même, ben le rêve il n'est pas tant vrai que ça, dans la réalité organisationnelle. Et puis que si une dominance de production sont féminines, les têtes d'affiche restent masculines. Les têtes d'affiche, donc meilleure place et le mieux rémunéré. Et les dames interviennent souvent en médiathèque l'après-midi, sans dénigrer. Mais pour un auditoire plus petit, dans des conditions techniques différentes, et pour une rémunération forcément moindre, parce que les éléments budgétaires d'une médiathèque pour le spectacle vivant ne sont pas les mêmes, ce n'est pas leur objet principal.
Donc il y a un parti pris pour vous d'inviter des conteuses, peut-être plus que des conteurs.
Oui, en fait, il y a effectivement, sans doute, dans notre programmation, plus de conteuses.
Qui reflètent la réalité, hein, en somme.
Voilà. Sauf que quand les conteurs interviennent, ils interviennent aussi sur ce sujet. Voilà. Quand Djihad Darwish, qui est un conteur que nous avons fait venir souvent dans notre... dans notre festival, intervient. Il va intervenir 6 fois, en fait, donc 5 jours d'affilée sur un conte en épisode. Eh bien, il va traiter des mille et une nuits. Et en fait, les mille et une nuits, ça se discute, mais quand même, c'est une... En gros, l'image qu'on donne, c'est une femme qui sauve toutes les autres. Voilà, en racontant des histoires. Voilà, donc on est toujours dans cette dimension. Et l'un des premiers spectacles qui a lieu à Sceaux le 25 juillet, Nicolas Racca. Alors Nicolas Racca, comme son nom l'indique, c'est bien un conteur, un lecteur. Et il a passé un certain temps de son activité artistique à chercher ce que les femmes ont pu dire à la Renaissance d'elles-mêmes, de leur corps, de leur plaisir, à travers des textes qui ont été ensuite enfouis pendant des siècles, quand ils n'ont pas été purement simplement repris par d'autres. Mais on a des exemples comme ça, on le sait bien, il y en a beaucoup dans tout le domaine artistique.
La programmation sont des contes pour tous les âges ou alors il y en a pour les enfants et aussi pour adultes. Et la question aussi de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le conte pour les enfants et celui pour les adultes ou alors sont-ils similaires ou s'adressent-ils aux deux ?
Il faut faire une nuance. C'est le Festival du conte de Bordeaux, comme son nom le dit, s'intitule « Nouvelles du conte ». Les nouvelles ne sont pas là pour rien. C'est que le contenu n'est pas uniquement les récits structurés en tant que conte avec des rythmes et des contenus bien précis. Ça peut aussi être une lecture de nouvelles, voire des romans adaptés, parce que la base... En fait, le conte, c'est soit son contenu, soit son verbe. Et on est très proche du verbe, nous. Donc, ça voudrait dire la nouvelle de la narration, qui parfois est du conte, et parfois pas. Parfois se situe dans la trame historique du conte, et parfois dans le contemporain, et peut prendre du coup des formes très, très riches et différentes, et peut-être parfois mieux coller à ce qui se trame dans la société d'aujourd'hui. Je ne prétends pas que du coup le conte traditionnel n'aurait pas sa place dans ce contemporain, mais ça laisse en tout cas une ouverture sur ce verbe de la narration. Après la narration, la narration, elle exclut parfois certaines tranches d'âge parce que, non pas parce que il y aurait une charge érotique ou d'agressivité ou de violence trop forte, parce qu'on ne va pas forcément viser de donner là-dedans, mais parce que ils vont perdre leur temps, ils vont peut-être pas du tout comprendre où ça nécessite d'avoir un contexte pour suivre, sans dire que le Festival de la Nouvelle du Conte est une petite manifestation élitiste. On est loin de là. Mais un gamin de 6 ans, il y a beaucoup de choses qui vont lui échapper. Quand nous, on marque un récit qui est bon à partir de 12 ans, 14 ans, s'il veut prendre vraiment plaisir à le faire et que les parents n'ont pas l'impression d'avoir poussé un enfant à découvrir quelque chose que finalement il ne peut pas suivre, autant prévenir. Et du coup, tous les après-midi, c'est famille. La plupart des activités sont famille. Et puis le soir, de temps en temps, on a du 12+, voire 14+, parce que c'est un peu plus compliqué. Et puis après, faut juste espérer que, comme tous parents, nos propres enfants sont forcément en avance sur leur âge. Faut espérer que les parents aient une juste approche de cela, parce que c'est finalement la gamine ou le gamin qui vont en faire le frais, parce que c'est quand même une heure et quart.
Oui.
C'est dommage de perdre son temps. Surtout qu'il y a, d'autres choses à proposer.
Alors, autour de ces spectacles, on va en citer quelques-uns. Vous avez parlé de Nicolas Racca, qui propose les Silencieuses. Ça détermine déjà un peu le titre aussi de ce festival.
C'est sûr que... il n'est pas là par hasard, et même si on n'est pas, nous, fans des inaugurations festives, peut-être que le temps ne s'y prête pas, peut-être que la thématique ne s'y prête pas, mais on ouvre avec les Silencieuses, c'est quand même c'est un signe. Et on enchaîne avec les femmes du Wallo. On reste dans le rythme et dans la musique. Et au fur et à mesure, sans dire que c'est du crescendo, parce que on n'a pas, du coup, c'est aussi difficile de se dire, d'un côté, on annonce, et de l'autre côté, on irait sur le fait de la tête d'affiche. C'est un festival qui n'a pas de tête d'affiche. Et aussi, c'est un festival qui n'a pas de tête d'affiche parce que nous ne le souhaitons pas, mais les artistes ne le souhaitent pas. Et du coup, on ne va pas ici détailler le budget. Mais ça veut dire que globalement, ben, la répartition, elle est juste et honnête et très transparente. Voilà.
Alors,
oui.
Oui, pour le compte et des enfants, en fait, d'une part, il y a depuis le début des Nouvelles du Compte, et ça va faire donc la 36e édition, donc ça remonte à loin, on a toujours eu une volonté d'associer le jeune public à l'activité, à la narration. Malgré quelques difficultés, à un moment, on est revenu à des stages destinés à un public jeune. Alors, il est depuis 3 ans maintenant sur inscription au centre de loisirs de Bordeaux, sur 5 jours, animé par une conteuse ou un conteur. Là, cette année, c'est une conteuse, Mathilde Arnaud, qui est du pays, si je puis dire, mais qui a une activité importante dans toute la France. Et en fait, ce stage permet à une douzaine d'enfants d'aborder la narration contée à partir de choses qu'ils connaissent. Et puis, il leur donnera l'occasion, le dernier jour, là, en l'occurrence le vendredi, d'avoir une expression publique devant un public d'enfants et d'adultes. Voilà. Ça, c'est un aspect. Par ailleurs, nous avons cette année, on innove un peu avec 2 matinées, deux petits moments de contes destinés aux très jeunes enfants. Voilà. Et c'est donc le samedi 27 juillet et le samedi 3, où là, on a pour un public de 2 à 6 ans un moment particulier qui sera tant au niveau de l'âge d'accueil qu'au niveau du lieu. Parce que, bon, pendant 20-25 minutes, c'est à peu près c'est la durée de ces contes, ou une vingtaine de minutes, c'est suffisant. Et on sera sur la scène, mais le rideau fermé, et les enfants seront derrière le rideau. Voilà. Et ça, c'est un peu une nouveauté. Et c'était une demande. C'est la réponse aussi à une demande. Hein, d'avoir des contes pour les tout-petits. Il y a beaucoup de conteurs qui savent faire ça. En l'occurrence, là, c'est Géraldine Morin, qui est de la région, et Thierry Dupuis.
Qui est de la région.
Voilà, également.
Et c'est derrière le rideau, résonne avec le devant le rideau, ou en levée de rideau, avant chaque spectacle famille de l'après-midi, on laisse la place pendant 10 minutes à une proposition amateur. Parce que c'est vrai qu'il y a les stages adultes pour amateurs qu'on organise aussi. Il y a les scènes ouvertes où les amateurs se suivent. Mais d'avoir l'occasion pendant 10 minutes,
oui, 10 minutes
de se présenter devant le public qui est là aussi pour le spectacle qui suit, dans des vraies conditions, ben c'est devant le rideau. En fait, on n'invente rien. J'ai l'impression que si après 36 ans, nous sommes toujours là, c'est qu'il faut écouter et qu'à un moment donné, les amateurs s'expriment. À un moment donné, les gens qui aiment le festival ou qui aiment la narration ou le conte, ben, ils s'expriment. Et puis, si c'est possible et si ça peut se cadrer, bien évidemment, quand on a la chance de pouvoir intégrer 2 artistes qui font une proposition pour les tout-petits, on ne va pas chercher, à mettre à fond notre thématique là-dedans, parce que ce n'est pas là le sujet. À ce moment-là, c'est sur la forme qu'il faut qu'on reste cohérent. Et du coup, c'est logique que c'est un homme et une femme et qu'on est dans une parité parfaite. Et c'est aussi ça, souvent à l'intérieur. Après, c'est aussi mathématique, mais qu'on cherche une parité parfaite entre le nombre d'artistes féminins et masculins. Finalement, c'est pas ça qui saute aux yeux. Et heureusement, mais il faut que ça y soit et ça y est.
Le choix s'opère pour vous d'aller à la rencontre de ces artistes, donc d'aller les voir sur d'autres festivals ou d'autres lieux pour les connaître et les inviter. Ou alors, il y a aussi une communication établie entre les artistes et vous-même pour opérer un choix.
36 ans, ça permet de connaître au moins ce qui précède. Les journées professionnelles qui sont souvent organisées permettent de découvrir les nouveaux conteuses, nouvelles conteuses, nouveaux conteurs. Les autres festivals permettent d'être au contact avec ses pairs. Donc il faut être à l'affût de tout ça. Et du coup, c'est plein de gens qui sont concernés au départ. Après, à un moment donné, il y a un arbitrage, c'est logique, parce que les budgets ne sont pas... Ni le nombre de jours de festival, ni les salles.
Non, son pincement de cœur, parfois.
Ben, toujours.
Oui.
Toujours, parce que heureusement, il y a plus de bonnes propositions que de places. Ce serait triste de se retrouver avec une thématique et de se dire, oups, il n'y a pas, il n'y a pas. Ben voilà, ça. Et du coup, ça fait plein de gens qui sont concernés, et heureusement, et qui font remonter les informations, qui recoupent, ou d'autres membres du conseil vont voir. Et puis à un moment donné, il y a un arbitrage sur une forme finale que ça doit prendre. Et c'est la richesse aussi. C'est peut-être aussi pour ça que les gens au conseil et les gens qui gravitent autour, ben, il y a de nouveaux qui arrivent, mais les anciens ne partent pas en courant.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Il y a cette même passion pour le conte, avec les nouvelles générations également auprès de vous.
Oui, oui, oui. Ben, dans les nouvelles générations qui arrivent un peu dans l'équipe, ben, de toute façon, il y a tous les jeunes qui ont assisté très jeunes au festival. Et puis, qui un jour se disent, bon, ben, je vais m'engager. Même s'ils n'habitent pas sur place, d'ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est très réconfortant. Et c'est aussi la force de la narration, du récit conté, qui rencontre l'actualité, qui fait qu'on n'est pas là simplement pour écouter une petite histoire qui va permettre d'endormir les enfants. On est là aussi pour se dire, pour regarder aujourd'hui avec des textes qui datent des fois qui viennent de très loin, qui ont été écrits ou qui ont été narrés, qui sont transmis dans des circonstances très, très anciennes et parfois très difficiles. Mais voilà, on a une conteuse là qui nous fait une sorte de, entre guillemets, lecture, parce qu'elle ne lit rien.
On peut la nommer. Hein.
Hein, Élodie Mora, c'est à partir du petit poussé. Mais à partir du petit poussé, elle va nous raconter beaucoup d'autres choses qui sont en relation avec ce que nous vivons. Voilà. Et c'est, je pense que c'est à partir de là qu'un certain nombre de plus jeunes spectateurs se disent bah, « bah, ma foi, je vais participer, je vais faire quelque chose. Et je vais venir aider ». Dans un premier temps, c'est surtout une aide matérielle, enfin bon, de bénévoles, parce que quand même, il y a énormément de travail, de préparation, et puis pour le festival lui-même. Et puis parfois, après, ça vient un peu plus loin, avec plus de responsabilités. Voilà.
C'est vrai aussi que la tarification du festival fait que, pas forcément sur une politique familiale poussée, mais sur globalement une tarification très démocratique.
Oui.
Que pour nous, et là aussi, on ne veut pas stigmatiser, Mais pour nous, le tarif enfant qu'on a changé en tarif jeune, il va jusqu'à 16 ans. C'est un choix. Et ça fait des tarifs très très bas qui ouvrent aussi la possibilité. Après, tout à l'heure, et comme Joël le rappelle, on a cet engagement dans le contenu. Mais comme je disais au début, le conte dans son approche de verbe, ben on a aussi cet engagement dans sa forme. Finalement, la narration a une très très grande place et une place importante dans le contemporain. Parce que finalement, dans une société où tout vire vers le montrer à outrance et au pire des vulgarités, ben, on a peut-être aussi besoin, je dis peut-être, mais c'est une erreur, on a besoin absolument d'espace. On a besoin d'espace où on ne montre pas, où on vous donne une évocation et où on demande au cerveau des spectateurs, parce qu'en fait, c'est pas un travail venir dans la narration. Mais en fait, le cerveau, il construit le décor. Parce que finalement, il n'a qu'une voix à s'accrocher et éventuellement le physique d'un conteur ou d'une conteuse. Mais il pourra guère s'appuyer sur le jeu de costume, sur le jeu de décor, sur le jeu de lumière. Parce qu'en fait, tout ça, très souvent, c'est parfaitement absent. On n'a qu'une voix. On est ici à la radio, mais en fait, c'est très proche finalement de la radio où on peut s'appuyer que sur une voix et sur des évocations. Et là on est, c'est nouveau, c'est pas politique, mais c'est très engagé dans une société de se dire arrêtons un peu de montrer et faisons travailler le spectateur. Et finalement, les jeunes, ils aiment ça. Parce que, et il faut aussi faut l'entraîner. Parce que ça se perd. Ça se perd. À force de ne pas utiliser, ben, ça se perd.
Je reviens sur les propos que vous disiez concernant la transmission de ces contes par les générations. Est-ce que ces contes d'aujourd'hui, créés de nos jours, sont aussi transmis de bouche à oreille d'ailleurs, est-ce que la transmission des contes se fait toujours par la narration uniquement, ou alors il existe des écrits pour pouvoir se les approprier ?
Alors, la transmission des contes, depuis des millénaires, c'est toujours d'abord fait oralement. Même si on a certaines épopées très ancienne, de la Mésopotamie par exemple, ça fait 3500 ans avant nous, quoi, qui ont été écrits sur des tablettes d'argile. Tout se transmet de toute façon oralement. Les mille et une nuits, dont on va avoir quelques après-midi cette année, se sont transmises à partir, toutes ces histoires se sont transmises à partir de l'Inde. Il y a très longtemps, d'ailleurs, on ne connaît pas vraiment le moment historique. On était jusqu'en Perse, et puis ensuite, plus proche de nous, au Moyen-Orient, et ont finalement été écrites une première fois en arabe à Bagdad, à Damas, au XIVe siècle. Et ensuite, il y a eu de l'écriture qui sont arrivées jusqu'en Europe, qui sont arrivées en Europe au XVIIe siècle. Et qui sont transformés d'ailleurs, parce qu'il y a eu plusieurs traductions.
Perrault a été un de ces auteurs qui les ont adaptés en texte.
Non, pas du tout. Perrault était beaucoup justement plus. Non. Enfin, même s'il a sans doute lu quelques.
Mais c'était une grande polémique déjà.
Oui. Perrault, sa source, c'était aussi orale. Il était chargé de raconter des histoires aux petites filles de la noblesse. Et en fait, il récupérait ses récits auprès des nounous, comme on dirait maintenant, qui venaient s'occuper des enfants de la noblesse. Et ces femmes, eh bien, elles amenaient les récits des endroits d'où elles venaient. Et sur Paris, essentiellement, elles venaient du Morvan. Voilà. Et là, je peux vous dire que les textes d'origine, ils ne sont pas aussi policés que ceux que lui, Perrault, a publiés par écrit. On ne mâche pas ses mots. Hein, dans le, le, les plus célèbres, on parle de choses. Voilà, hein, le petit chapeau rond rouge, le loup, il dit, à un moment, le chat qui surveille le petit chapeau rond rouge qui rentre avant d'aller dans le lit du loup. Le petit chaperon rouge, il boit un coup, il mange un coup, et il y a un chat noir au-dessus qui lui dit « Ma petite salope, tu bois le sang de ta mère, de ta grand-mère, et tu manges son foie. » C'était dit comme ça. Évidemment, Perrault ne l'a pas écrit de cette façon. De la même façon que dans « Les mille et une nuits », il y a eu des traductions qui étaient « bon, qui n'étaient pas mises entre toutes les mains. » Ah, mais celle que nous aurons, que Djihad Darwish va nous conter par petits morceaux pendant 5 jours, et ça va être un régal, comme tous les contes à épisodes que nous avons eus jusqu'à maintenant. Et voilà, ça sera... Il y a beaucoup de choses suggérées pour qu'on se construise, comme tu le disais tout à l'heure, soi-même, ces images. Voilà. Et ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est que... quand on a des jeunes parmi les spectateurs, où ils abandonnent quand même leur téléphone portable, ben, ils font des découvertes. Parce qu'ils ont des fois entendu parler de ces textes qui ont été repris 1000 fois sous d'autres formes. Mais finalement, c'est toujours les mêmes textes. Hein, le bien, le mal, la mort, la naissance, voilà. Et ils découvrent. Et ils se font... une autre image dans leur tête.
Donc la teneur des textes d'aujourd'hui le sont parfois avec les mots crus aujourd'hui ou comment s'exprime un conteur de nos jours ?
Allez, il s'exprime simplement avec les mots d'aujourd'hui. Il s'adresse au spectateur en lui faisant confiance sur... ce qu'il va dire va être compris, va être interprété. D'ailleurs, chacun de façon un peu différente pour chaque spectateur. Quand on discute avec les spectateurs à la fin d'un spectacle, on n'a pas tous entendu de même. Voilà.
En fait, 200 personnes sortent de la salle avec 200 histoires.
Voilà.
Après la narration, elle a ça de... Du fait que la conteuse ou le conteur est finalement, c'est très réducteur ce que je vais dire là, mais il fait le récit en tant qu'observateur. Il n'incarne pas ce personnage parce que dès que c'est incarné, c'est un autre jeu, mais c'est surtout une autre relation au public. On est axé sur ces co-actrices et co-acteurs et sur ces dialogues. Donc là, qu'on ait un récitant qui trame une situation qui n'a pas, à la limite, il n'a pas à prendre position. C'est le public qui fait ses choix. Permet aussi de rester sur des tons qui sont beaucoup plus nuancés. Le vocabulaire ne doit pas l'être. On peut aller très loin, mais on ne doit pas aller dans l'excès de le surjouer en criant, en gueulant, comme si on l'incarnait. On peut garder une distance civilisée, ce qui fait qu'on peut dire des choses très crues et très dures, et très souvent dans les textes anciens comme contemporains, c'est le cas. Mais du fait de la position... et de la relation entre la personne sur scène et la personne dans le public, ben ça permet de rester dans des tons tout à fait convenables. Je ne sais pas ce que ça cache, ce mot convenable, mais civilisé, ne pas heurtant.
Oui, ne pas
heurter. Le but n'est pas de heurter. On n'est pas là non plus dans ce projet-là. Ni dans un projet qui serait éventuellement marketing, ou ni dans une installation même personne ne sait si dans un an ou dans deux ans, tout à coup, on se retrouve avec un récit installation parce qu'il aurait un sens dans une thématique.
Oui, ça pourrait. Ça pourrait. On en a eu d'ailleurs, par le passé, avec des projections ou avec... voilà. Mais en général, non. Je voudrais aborder certaines de nos activités, en particulier quelque chose qu'on a mis en place depuis l'an dernier. Ce sont des apéros-contes. C'est un moment de rencontre offert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de ticket, pas de billetterie, qui ont lieu dans différents endroits du village de Bordeaux. C'est un moment animé par un conteur, par Kamel Guénoun, qui est un conteur associé aux Nouvelles du Conte, et qui, au-delà d'un démarrage de 10 minutes, donne la possibilité à d'autres conteurs présents, professionnels ou non, de raconter une petite histoire, le tout devant un public qui peut être de 10-15 personnes, qui peut être, c'était un moment l'an passé, beaucoup plus, mais dans un lieu public où n'importe qui peut passer, rester 10 minutes, écouter et puis aller faire ses courses. Voilà. Et ça, l'an passé, on était un peu, on se demandait si ça allait marcher, mais alors ça a augmenté à toutes les séances. Et cette année, donc, c'est tous les jours sauf deux. On laisse la place aux tout petits. Et ça a lieu dans les rues de, enfin, dans les, il y a un café, il y a un camping, il y a plusieurs cafés d'ailleurs. Il y a la médiathèque de Bordeaux.
Voilà. Il y a une dizaine d'endroits dans Bordeaux pour cet accueil.
Voilà. Et c'est le matin à 11h.
Avec trois rendez-vous chaque jour, hein, grosso modo, avec le public. En plus des activités qui seront proposées, hein, vous en citiez sur les scènes ouvertes ou alors aussi sur les cafés, sur les comptes apéros.
Les apéros comptes dont je viens de parler.
Les apéros comptes, voilà. Autour de ces événements, de ces rendez-vous, qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous proposez aussi ?
Ben, là, dans la mesure où on est sur une intercommunalité, ça a du sens, ou au moins on essaye d'en donner. C'est vrai que c'est un partenaire. C'est vrai que c'est un territoire. Pour nous, ça se joue sur deux vallées, la vallée du Jabron et la vallée du Roubillon. On y a rajouté, pour jouer à sauter la frontière, on a rajouté la Vèbre.
Oui.
Du coup, on se retrouve finalement sur trois vallées, Vèbre, Roubillon, Jabron, ce qui permet d'intervenir à Sous, ce qui permet d'intervenir qui est plus bas dans le Roubillon aussi. En confluence, on a Bordeaux et puis on a Dieulefi, ce qui permet aussi, que ça suit votre question, qu'on intervienne à chaque fois sur les marchés avec des animations qui sont plus légères, qui permettent de picorer, qui permettent de garder ça, c'est drôle. Et en même temps, c'est pour nous un très bon outil de communication parce que ça montre bien ce que le festival couvre. Après, on a la librairie. La librairie, elle est transversale sur le conte globalement, sur le conte dans son contenu, sur le conte dans sa narration, sur tout ce qui a été produit en littérature sur la thématique de l'année.
Sur la thématique, ouais.
Et forcément, tout ce qui a été écrit et édité par les acteurs, conteurs et conteuses de l'année.
Et y compris dans le romanesque.
Y compris dans...
Sur la thématique, parce qu'il y a abondance quand même. Voilà. Et autre chose dans nos activités, ce sont les rencontres avec les artistes. Rencontres qui sont... elles sont là, au bas de la page. Là. Avant ou après, selon les jours, le spectacle de l'après-midi. Donc il y a une demi-heure, trois quarts d'heure de rencontre animée par un conteur, par Robin Recourt. Et donc chacun des artistes qui seront présents et qui présenteront un spectacle, eh bien, on peut venir écouter une discussion sur pourquoi y... Après tout, pourquoi ils sont conteurs, pourquoi c'est leur métier, pourquoi ils ont fait ce choix, pourquoi ils ont fait le choix de tel ou tel spectacle. Voilà, comment ils... on a des fois des questions, comment vous travaillez, comment vous apprenez. Voilà. Des choses très concrètes, ça permet à une partie du public qui a envie de venir écouter, passer un moment voilà, avec les conteurs qui interviennent.
Parce qu'après chaque spectacle du soir, on offre le thé à la menthe sur le site. Et il y a forcément cette rencontre informelle avec l'artiste qui joue le jeu. Parce que c'est le milieu aussi qui veut ça. C'est le tempérament, c'est la personnalité de ces gens-là qui font ça. Et qui donnent largement le temps après l'acte de scène. Et puis, les rencontres avec le public modérées par Robin Recourt, c'est plus formel, mais en même temps, c'est une autre interactivité, parce que du coup, c'est moins personnalisé, les questions sont parfois plus générales, et nous, on rajoute une couche en instaurant que certaines de ces rencontres ont lieu avant ou certaines après le spectacle. Parce que le ton est complètement différent. Oui. Quand c'est après le spectacle, c'est comme si on a mis les choses sur un rail. Quand c'est avant, c'est beaucoup plus ouvert et parfois beaucoup plus intéressant pour certains sujets. Parce que du coup, tôt ou tard, on aborde le spectacle du soir ou du lendemain, mais on l'aborde dans ses intentions, parce qu'on ne va pas spoiler et on ne va pas non plus raconter déjà tout avant. Mais on peut donner les intentions, on peut donner un historique. Et du coup, c'est deux approches complètement différentes. Et c'est bien qu'on a gardé environ 50% dans un sens comme dans l'autre.
Pour les infos pratiques de cette durée de festival sur 10 jours, est-ce que certains vacanciers viennent y passer toute la durée, et dans ce cas-là, des facilités d'hébergement ou de camping, peut-être ? Qu'est-ce qui existe ?
Il y a. On a une région touristique. On se situe certes sur le créneau le plus touristique. Imaginons qu'on réduit la saison au pire entre le 14 juillet et le 15 août, ce qui serait une erreur, mais qui correspond quand même au grand afflux, mais on est sur une région avec beaucoup de campings, avec beaucoup de chambres d'hôtes, avec quelques hôtels, plus ou moins éloignés. Et même si on est en haute saison, il y a la possibilité. Après, on voit bien que quand c'est le festival, que tous les parkings des camping-cars sont pleins, parce que les gens ont l'habitude aussi de faire le Tour de France des festivals. Et du coup, on voit arriver ça. Et c'est sûr que ça fait qu'un festival, le nôtre comme tous les autres festivals, comme Avignon, à un moment donné, c'est un support à une activité économique non négligeable.
Cette organisation reçoit aussi le soutien de maintes collectivités. Hein. On peut parler des communautés de communes du pays de Bordeaux, donc, ou la commune plutôt, le département de la Drôme, la région Rhône-Alpes, le fonds de développement de la vie associative.
Le ministère de la Culture intervient, direction régionale des affaires culturelles. Et tous participent, je dirais pas à la mesure de leurs moyens, mais en maintenant leur participation. Ouais. Et ça, c'est très important. La communauté de communes du Elfi-Bourdeau, qu'il ne faut pas oublier, qui a un rôle très très important. Et puis, il y a aussi des personnes, des petits entrepreneurs, des commerçants qui nous aident, qui sont en situation de sponsor. Voilà. Donc, financièrement, pour l'instant, et jusqu'à nouvel ordre, on arrive à équilibrer. Et on arrive d'autant plus équilibré qu'il y a un grand nombre de spectateurs qui, depuis 3 ans, augmentent régulièrement. Voilà. Alors cette année, juste une petite chose à ajouter, il se trouve que par un certain nombre de circonstances, là, depuis 3 ans, on utilise la salle des fêtes de Bordeaux pour les après-midi, de toute façon, parce qu'on ne va pas se mettre en plein soleil, pour un festival qui, au départ, est d'abord un festival qui se passe en extérieur et en soirée. Et donc, on utilise la salle des fêtes de Bordeaux et puis un autre lieu pour les extérieurs le soir, s'il n'y a pas trop de vent et s'il ne pleut pas, bien entendu, qui est en fait cette année à 50 mètres en face. On traverse la rue, on fait 50 pas et on est sur une pelouse en forme d'amphithéâtre ou presque, où on va avoir des moments très, très, très importants.
L'affiche de cette édition représente des animaux en observateur d'une cité lointaine. Il y a un esprit de sauvegarde quelque part.
C'est Boris Transin qui fait l'affiche du festival depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que là, bon, elle trame l'idée qu'il s'agit quand même d'un festival de contes, dans son approche plus réducteur, réductrice.
Oui.
Mais on voit au moins une lumière, fagot ou fumigène. C'est pas un hasard que c'est le blaireau qui pose la question. Donc il y a là une lecture possible adulte et plus enfant, parce que c'est une très belle affiche aussi. Ça pourrait être une couverture d'un livre pour enfants. Et dès qu'on creuse un peu, oui, on sent quand même une tension dans les couleurs. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur des affiches et des documents pour les parcs naturels, régionaux et nationaux. Et du coup, oui, il y a les deux lectures.
On peut tout connaître de ce festival en allant sur le site internet www.nouvelle-du-compte-tout-attaché.org. Je mettrai le lien sur le site de la page.
Eh ben c'est très bien.
Et la billetterie, elle est associée à ce site internet.
Joël Miachon et Wannes Melson, merci beaucoup en tout cas d'être venus chez nous sur RDWOP. Bonne
merci.
Soirée.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
De nous avoir reçus. Thank you.